du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Jeudi 12 mai 2022, il est 8h dans ce studio. Bienvenue à tous dans ce journal matinal de Studio Tamani. Au sommaire, les agents des stations d'essence Oryx, Shell, Total et Ola Energy ont entamé hier mercredi une grève de 4 jours. Le syndicat des pompistes revendique des contrats pour les agents de ces entreprises pétrolières. La société de l'énergie du Mali, EDEM SA, sera restructurée à hauteur de 2 300 milliards de francs CFA d'ici 2026. Le plan de restructuration a été annoncé par le ministre de l'Économie et des Finances. L'ASCOMA souhaite sa mise en œuvre immédiate. Notre dossier de ce matin s'intéresse aux familles installées au flanc des collines. Pour certaines, elles vivent ce risque malgré elles. Cependant, les environnementalistes alertent sur les dangers qui planent sur ces habitations. À la présentation de ce journal, Adama Madouaïda. Bonjour à tous et à toutes. Les agents des stations d'essence Oryx, Shell, Total et Ola Energy ont décrété hier un arrêt de travail de 4 jours. Le syndicat de ces travailleurs exige l'octroi des contrats pour les agents des entreprises pétrolières et le respect du code du travail. Ils indiquent qu'une autre grève de 5 jours suivra si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Kadari Dambili est l'un des responsables du syndicat. Il est joint par Mamadou Samassikou.
On a décrété une grève de 96 heures et reconductive à 120 heures. L'objectif de notre sortie ce matin est l'application de la convention collective des entreprises pétrolières, l'application du code du travail, en même temps le respect du code du travail. Ce n'est même pas des revendications, c'est des réclamations. Imagine, il y a beaucoup qui travaillent dans ces stations-là. 15 ans, 10 ans, ils n'ont pas de contrat. Les gérants, ils viennent et te disent va à la maison. Nous, on a demandé d'arrêter ça, de donner du bon contrat aux gens. Une fois que tu atteins 2 ans, 3 ans déjà, tu dois avoir un contrat à durée indéterminée. Chaque fois, on signe des contrat CDD. On a demandé d'arrêter ça. Mais ils ne voulaient pas faire ça. Il y a eu des multiples assises entre nous, mais il n'y a pas de compromis. Chaque fois, on vient, ils nous disent les mêmes choses. C'est-à-dire, les lignes ne bougent pas, quoi. C'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui vraiment d'aller en grève. Nous sommes appelés au Sénégal. Tout ce que nous faisons, l'UNTM est au courant. C'est notre centrale.
La pénurie d'essence et de gasoil persiste dans certaines localités à l'intérieur du pays. De Yanfolila en passant par Bankas et Douenza, la population peine à s'approvisionner en carburant. Pour certains gérants de stations, la situation serait due à la hausse du prix à l'international. Les détails avec Aïssata Diarra.
La pénurie d'essence à Bankas dans la région de Badjangara est confirmée non seulement par les vendeurs, mais aussi par les usagers. En plus de cela, la population dénonce les tracasseries pour avoir le minimum nécessaire par jour.
On n'a aucune goutte d'essence aujourd'hui. C'est à voir même s'il y en aura cette semaine. La réserve disponible risque de finir d'ici demain. Le litre fait 850 francs.
Ça a été pénible, mais après avoir fait la queue, j'ai pu avoir l'essence à 800 francs CFA le litre. Il y a vraiment pénurie à cette période.
À Douanza, dans la région de Mopti, il n'y a pas de pénurie. Mais le litre de l'essence peut aller jusqu'à 1500, regrette des habitants.
Voir que présentement un litre d'essence coûte entre 1000 francs et 1500 francs CFA, alors que dans un passé récent, ce litre était cédé à 750 francs, ça fait mal. En plus de ça, la qualité laisse à désirer.
À Yanfolila, où les prix du litre de gasoil varient entre 875 à 1000 francs CFA, Adama Kanté, gérant de la station Bakayne, explique les causes de la rareté de la matière dans la localité.
Les renseignements que nous avons obtenus auprès de nos responsables indiquent que c'est à la source d'approvisionnement même que cette hausse est activée. C'est donc impossible de les revendre au prix indiqué par le gouvernement. C'est pour cela qu'on préfère réserver les stocks disponibles aux ambulances et à l'armée.
Par ailleurs, les prix sont stables dans des localités comme Ségou, Kenyeba, Badjangara et Kourou.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les pourparlers entre le Mali et la CEDEAO se poursuivent. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sékou Di Gaoussou Cissé. C'était en début de semaine lors de la célébration de la journée de l'Europe au Mali. Selon le diplomate, on tend vers une levée des sanctions. Ali Cissé pour plus de détails.
Sekou dit Gaoussou Cissé se montre optimiste quant à la levée prochaine des sanctions de la CEDEAO prises contre le Mali il y a plus de 4 mois. Selon le diplomate malien, les autorités de la transition et la CEDEAO sont en passe de trouver un accord sur la prolongation du délai de la transition. Comme on le dit en diplomatie, on n'est pas très loin de l'accord. Dans les prochains jours, les autorités compétentes vont pouvoir se prononcer sur cette question. Il annonce un compromis qui, selon lui, pourrait aboutir à une feuille de route acceptable, au terme de laquelle seront organisées des élections crédibles, transparente et apaisée. Cette déclaration sur un possible accord entre le Mali et la CEDEAO a été faite quelques jours après la visite d'une délégation malienne au Togo. Celle-ci a demandé au président togolais Fornia Simbé de soutenir l'effort de dialogue du gouvernement malien avec l'ensemble de la communauté internationale. Des partis politiques ont salué le choix porté sur le chef de l'État togolais, qui espère-t-il va permettre un retour à l'ordre constitutionnel.
Un plan de restructuration de la Société de l'énergie du Mali, EDMSA, de plus de 2300 milliards de francs CFA a été annoncé ce lundi par le ministre de l'Économie et des Finances. Selon le ministre Alousseini Sanou, ce projet prévoit la réhabilitation des infrastructures et l'amélioration du système sur une période de 4 ans. Cette nouvelle est pour l'Association des consommateurs du Mali Ascoma un pas énorme dans la prise en compte des préoccupations des Maliens. Les responsables de la structure souhaite sa mise en œuvre le plus tôt possible. Mariam Koulibaly pour plus d'informations.
Pour le ministre des Finances Alousseini Sanou, le plan de développement 2022-2026 de l'EDM permettra entre autres de revoir les installations et mettre fin aux coupures intempestives.
C'est un plan ambitieux, concerne des investissements importants de l'ordre de 2252 milliards de francs CFA, parce qu'aujourd'hui il faut arriver à, c'est-à-dire utiliser plus le photovoltaïque et l'hydraulique à la place du thermique. On a veillé à ce qu'il y ait un contrat de performance qui exige un rapport trimestriel qui va être présenté tous les trimestres au ministre sectoriel et au ministre de l'Économie et des Finances.
Cette annonce n'est pas une première, mais nous espérons vraiment que les autorités trouveront une solution au problème de l'électricité au Mali. C'est l'avis de Abdelwahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali.
Il n'y a pas assez longtemps, on a parlé en électricité de 1 000 milliards. Malheureusement, on n'a pas vu de choses. D'ici 4 ans, la population va croître, les activités également vont croître. Et ce n'est pas en comptant sur le terme que le problème du Mali sera résolu.
Les responsables du regroupement des consommateurs exhortent les autorités de la transition à miser sur le soleil et l'eau pour la production de l'électricité au Mali. La disponibilité de l'électricité est l'une des bases du développement de tout pays.
Pendant ce temps, les coupures intempestives d'électricité deviennent de plus en plus récurrentes à l'intérieur du pays. À Kenyeba, certains quartiers de la ville peuvent faire 48 heures ou 72 heures dans le noir. La situation impacte beaucoup d'activités dans la localité. La population dénonce l'incapacité de Kama SA, la société qui fournit de l'électricité dans la ville. Notre envoyé spécial Oumar Ouigalou à Kenyeba s'est intéressé à la question suivante.
L'électricité est fournie d'une façon temporaire. Pendant la journée, c'est entre 10h et 14h et la nuit, le courant n'est disponible qu'entre 19h et 2h du matin. Malgré cette fourniture temporaire, certains quartiers de la ville peuvent faire plusieurs jours sans électricité. Une situation qui empêche certaines personnes d'exercer leur travail, notamment les tailleurs. Sadio Keita, chef d'un atelier de couture.
S'il y a des coupures d'électricité, nous sommes obligés d'arrêter le travail parce que nous n'avons pas de groupe électrogène. Souvent, les clients se fâchent contre nous parce que leurs habits ne sont pas cousus. Notre souhait est de coudre tous les habits qu'on nous donne et remettre aux propriétaires.
Cette situation touche également les vendeurs de jus, des gingembres, des crèmes et les propriétaires des boutiques d'alimentation. Pour ces derniers, ces coupures intempestives constituent un manque à gagner.
Avec cette coupure d'électricité, toutes nos activités sont au ralenti. Nos réfrigérateurs ne peuvent plus produire des glaces.
Cette coupure nous fait subir beaucoup de pertes. Des fois, tous les aliments que nous mettons dans les congélateurs se décomposent.
Toutes nos tentatives pour faire réagir les responsables de la Kama SA, la société qui fournit de l'électricité dans la ville, ont été vaines. Oumar Ouigalou, depuis Kenyeba pour Studio Tamani.
Les déplacés de la région de Menaka et ceux du cercle d'Ansongo vivent dans des conditions pénibles, malgré les aides reçues sur place par le HCR et d'autres ONG. Selon eux, ils ont besoin des sites d'habitation et d'une sécurité alimentaire sanitaire, surtout pour les femmes et les enfants. Ils lancent un cri de cœur aux autorités de la transition pour améliorer leur situation. Plus de détails dans ce reportage de l'Alecha Wallet Infa.
Les déplacés de Meneka déplorent leurs conditions de vie. Ils affirment que les aides reçues des ONG et des personnes de bonne volonté sont insuffisantes face au nombre de plus en plus croissant des déplacés dans la région. Mohamed Yattara, un déplacé, lance un cri de cœur aux autorités de la transition.
Vraiment, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de l'eau, parce qu'à Meneka, l'eau, c'est un casse-tête. Aussi, d'appuyer les centres de santé de Meneka en médicaments, parce que nous sommes avec des femmes, des enfants, des veuves qui sont malades. Et maintenant, le problème pour nous, c'est les nourritures, les bâches, les nattes, les couvertures, parce qu'il y a des gens qui sont déplacés. Ils n'ont rien avec eux.
Tout comme à Meneka, les déplacés du cercle d'Ansongo dans la région de Gao vivent et aussi dans les mêmes conditions précaires. Ils disent être tous confrontés au manque de vivres, de soins de santé et d'habitat. Écoutons les témoignages de ces déplacés qui ont voulu garder l'anonymat.
Les conditions de logement sont très difficiles. L'alimentation, n'en parle même pas. Ils ne sont pas du tout assis sur les plans sanitaires. Les déplacés de tous les cercles, on peut les estimer à 500, 600 comme ça.
De leur côté, des centaines de déplacés de Tessit qui se sont réfugiés à cause des attaques terroristes au Niger et au Burkina Faso vivent, selon eux, dans des conditions lamentables.
Nous en venons à un des titres de ce journal à Bamako. Plusieurs familles ont choisi de s'installer au flanc des collines. Pour certaines d'entre elles, c'est faute d'avoir trouvé des terrains qu'elles se sont installées dans ces endroits, alors que d'autres estiment que c'est pour rester proche de leur lieu de travail. Ces habitations encourent pourtant des risques, selon des environnementalistes, à cause de leur proximité avec ces collines. Moussa Bet Sidibé s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage.
Des concessions en longue file au flanc de la colline. Certaines y sont même installées tout au-dessus. Ici, nous sommes à Lafiabougou, un quartier de la commune 4 du district de Bamako. Les habitants de ces lieux qui vivent dans une apparente sérénité sont-ils conscients des dangers auxquels ils s'exposent? Beaucoup d'entre eux répondent par l'affirmative, mais disent n'avoir d'autre choix.
S'installer au flanc de la colline n'est jamais sans risque. Les pierres suspendues au-dessus peuvent chuter à tout moment.
C'est ici qu'on a eu des parcelles. Si on ne vient pas s'installer ici, où est-ce qu'on va? Tout le monde sait qu'au Mali, les lots coûtent cher.
On sait qu'il y a des risques, mais que faire? Les parcelles moins chères sont situées dans les endroits dangereux.
Ces familles au flanc et sur les collines sont de plus en plus visibles dans plusieurs quartiers de la capitale. Des environnementalistes affirment pourtant que les habitants de ces endroits ne sont pas à l'abri des catastrophes naturelles, surtout pendant l'hivernage. Adama Sambo Sissoko, environnementaliste.
Évidemment, les familles qui sont installées au flanc des collines, tout comme celles qui sont installées sur les collines, courent des risques très très énormes. D'éboulements, de coulées bouilleuses ou même de chutes des pierres qui, des fois, peuvent écraser toute une famille entière, comme on a déjà vu le cas à Bankonim Kounimani en 2013, où toute une famille a été écrasée par une grosse pierre.
Donc, malgré ces risques, les bordures des collines continuent d'être occupées, parfois avec la bénédiction des autorités communales, disent certains occupants.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Ainsi se referme cette édition de la matinale qui vous a été présentée par Adama Amadou Haïdara, la mise en œuvre de Mamadou Ouattara. Merci pour l'écoute et bonne journée de vendredi. Ne quittez surtout pas tout de suite la version Bambara. Sur les routes migratoires, les migrants sont confrontés à d'énormes difficultés, qu'ils soient en transit ou de retour. Ces personnes ont parfois besoin d'assistance et de protection. Le projet d'appui à la protection des migrants vulnérables sur les routes migratoires au Sahel Promisa vise à assurer cette assistance et cette protection pour les migrants les plus vulnérables au Sahel. Les Promisa vient en aide aux migrants, quels qu'ils soient, mais ceux-ci doivent répondre à des critères de vulnérabilité pour bénéficier de l'assistance. Ce magazine est réalisé à Tombouctou, Kay et Saint, dans le cadre du Promisa. Le projet d'appui à la protection des migrants vulnérables au Sahel est mis en œuvre à Tombouctou, Kay et Saint. Dans cette dernière région, le Promisa est exécuté par la coordination diocésaine de Caritas Saint. Ville Carrefour, La situation géographique de Saint fait d'elle une plaque tournante de la migration, nous dit Para Yves Koné, chargé de projet à Caritas Saint.
Les migrants que nous accueillons ici, la plupart viennent des pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria et le Ghana, en traversant le Burkina, et pour remonter vers Bamako en passant bien sûr par Saint.
À Kaï, autre région de migration par excellence, le Promisa vient en aide aux migrants vulnérables. Assistante au Promisa à Caritas Kaï, Delphine Mega nous explique comment se fait l'assistance aux migrants.
Une équipe de 9 personnes, on appelle personnes ressources communautaires. Et ils partent sur le terrain dans nos différents points de partage d'informations pour la recherche des migrants. Et après, ils orientent ces migrants-là vers moi pour l'enregistrement. Et l'enregistrement se fait avec nos critères de vulnérabilité. Si le migrant correspond à 2 de ces critères de vulnérabilité, il peut bénéficier de notre assistance à travers les vouchers coupons, soit à travers l'hébergement.
À Tombouctou, le Promisa est mis en œuvre par le Catholic Relief Service, en abrégé CRS Mali. Celui-ci travaille avec plusieurs autres acteurs, notamment la Croix-Rouge. El Hadj Amadou Touré est le responsable du projet Assistance et protection des migrants à la Croix-Rouge de Tombouctou. Il nous parle des types d'assistance fournies aux migrants.
Nous en avons 5 de façon directe. Ces assistances sont une assistance en NFA, en kit hygiène et vêtements. Nous avons l'assistance médicale aussi. Nous avons l'assistance alimentaire à travers des repas chauds. Nous avons le PSS, la prise en charge psychosociale et le rétablissement des liens familiaux.
Dans la cité des 333 Saints, un groupe de travail a été créé pour une meilleure coordination des actions. Plus d'une dizaine d'acteurs locaux et internationaux y participent en bonne intelligence. Hasseidi Wangara, chef du bureau OIM à Tombouctou.
Nous avons des réunions auxquelles participent tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la migration. C'est une réunion très vivante dans laquelle nous discutons des activités, nous coordonnons, nous essayons d'instaurer une forme de complémentarité afin que tous les besoins soient couverts en fonction des possibilités de chaque acteur sur le terrain.
Les acteurs locaux saluent l'initiative du Promisa qui est venu leur enlever une épine du pied. Sékou Tawati, premier vice-président du bureau local du Haut Conseil islamique du Saint.
À Saint, le phénomène est grandissant. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Quand ils arrivent, ils vont dans les mosquées ou chez l'imam. À chaque fois que le problème se présente, nous intervenons. Si nous n'arrivons pas à subvenir aux besoins de l'intéressé, on fait appel à Caritas. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, Caritas est arrivé à trouver la solution avec nous.
Ce magazine a été réalisé par Studio Tamani en partenariat avec Caritas et la Croix-Rouge dans le cadre du projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel Promisa, financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique.